La propagande de guerre anti-russe bat son plein à écouter les médias dominants, parce que dominé, on a parfois l'impression d'écouter des commentateurs de matchs de football surexcités. Sauf qu'il s'agit bien des conflits armés provoqués par des médias sionistes qui dictent et imposent leur ligne éditoriale jusqu'à l'infini. Les médias bien entraînés après 2 ans de Covid. Alors où nous imprimons ces lignes? En pleine nuit du vendredi 4 mars, la presse nous dit que la plus grande centrale nucléaire européenne est en feu. Peut-on lire cette phrase dans une brève sur un site dont on préfère garder l'anonymat pour les raisons que l'on sait? Il faut que les Russes cessent immédiatement de bombarder cette centrale qui, si elle explose, ce sera 10 fois plus gros que Tchernobyl, diantre. Poursuit le petit journal avant de s'expliquer ainsi. Les Russes sont tellement fous et tout autant idiots qu'ils vont faire exploser une centrale nucléaire impliquant des retombées radioactives sur leur propre pays, ainsi que des coupures électriques majeures pour un pays qu'ils espèrent conquérir. Stupide et grossière propagande. Plus c'est gros, plus ça passe. Attribue-t-on à Géobel notre lien contre Culture. D'ailleurs, à peine 2 heures plus tard, la presse, probablement échaudée par le mémorial juif bombardé puis pas bombardé, s'amende. L'Ukraine n'a pas détecté de changement dans le niveau de radioactivité à la centrale de Zaporizhzhia, touchée par des bombardements russes, a annoncé l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'Ukraine n'a pas détecté de changement dans le niveau de radioactivité à la centrale de Zaporizhzhia, a annoncé l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA après qu'un incendie s'est déclaré vendredi dans la centrale ciblée par des bombardements russes. L'incendie n'a pas affecté d'équipement essentiel, a ajouté l'AIEA. Dans la même veine, la vidéo suivante, Combil et Debunk, comme on dit depuis le 11 septembre, les principales fake news officielles dont les démentis, c'est bien connu, ne sont jamais relayés aussi bien et aussi vite que l'information originale. Le mal est donc fait et c'est exactement l'objet visé.
Et pour commencer cette émission, eh bien c'est l'image de la semaine. Et cette image, elle date un petit peu, mais en fait, elle est revenue d'actualité. C'est un extrait de l'émission L'heure des pros avec Pascal Pro et Michel Geoffroy. On va la regarder et je vous laisserai la commenter ensuite.
L'interview du jour, c'est quand même Monsieur Delfraissy, qui a dit exactement le contraire de tout ce qu'il a dit depuis 2 ans.
D'accord.
Ça, c'est absolument magnifique. On est au début d'une nouvelle ère, a-t-il dit, nous sommes en train d'en finir avec Omicron. Pourquoi pas? Mais vivre avec le virus, c'est peut-être aussi sortir de cette notion d'obligation. Je jure, je l'ai dit ce matin, je vais reprendre l'expression, je me tenais les côtes en lisant cela ce matin dans Le Parisien, qui a été jusque-là nécessaire. Et arriver à ce que les citoyens gèrent eux-mêmes leur vie en fonction du niveau de l'épidémie. Ça fait juste 2 ans que je le dis. Ce sera aux citoyens de choisir.
Mais c'est la chienlit.
Ce sera aux citoyens de choisir.
Non, ça.
On ne peut pas demander la même chose à un jeune de 18 ans ou à quelqu'un d'âgé. Il se fiche de nous. Il se fiche de nous.
Oui, alors, c'est une image très intéressante. Les médias n'en ont pas trop commenté, mais c'est quand même une révolution. On entend le président du conseil scientifique expliquer que pour vivre avec le virus, ce n'est pas nécessaire d'être dans une logique d'obligation. Hein, et puis, il faut laisser les gens libres. C'est-à-dire, comme le relève Pascal Pro, c'est tout le contraire de ce qu'ils ont dit depuis 1 an et demi. Hein, mais ce n'est pas un problème. Hein, on change de paradigme. D'ailleurs, on ne parle plus du Covid aujourd'hui. Il y a autre chose qui succède au Covid.
Bah – on rentre dans une nouvelle ère.
– Une nouvelle ère, comme a dit le professeur Delfraissy. Et donc, nous rentrons dans l'ère de la peur à nouveau. Mais cette fois-ci, c'est la peur de la guerre. Hein, donc on a abandonné la peur du Covid pour rentrer dans la peur de la guerre.
– Et d'ailleurs, on a les médias qui se font le relais de ce sondage ELAB, hein, invasion de l'Ukraine par la Russie, les Français sous le choc.
– Oui, alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sondage, parce que quand vous regardez les questions posées, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce sont des questions fermées, puisqu'on pose 4 questions aux gens qui ont été interrogés, qui sont des internautes, en fait, que c'est un sondage par Internet. Alors, c'est la première question. Est-ce que vous êtes assez choqué? Est-ce que vous êtes très choqué? Est-ce que vous êtes pas du tout choqué? Et est-ce que vous êtes pas vraiment choqué? Donc, à l'évidence, le but, c'est de dire qu'on est choqué, si vous voulez.
Oui,
bien.
Oui.
Comme si le choc était le seul... la seule réaction qu'on pouvait avoir face aux événements. Donc on voit bien cette polarisation qui annonce ce dont on va parler dans l'émission, c'est-à-dire l'hystérie médiatique autour de la peur de la guerre.
Et ça rappelle d'ailleurs l'ouvrage de Naomi Klein, je crois, La stratégie du choc.
Oui, oui, voilà. Un peu.
On
oui,
est un petit peu dedans.
Oui, bah oui, ça, on est en plein dedans.
Oui, on va être en plein dedans, on va le voir dans cette émission.
Selon OPEX 360, le porte-avions Charles de Gaulle s'est impliqué dans les opérations aériennes en Roumanie et en Bulgarie. C'est ce que titre OPEX 360 ce 5 mars. Et voici ce qu'on peut lire sur le site français concernant le conflit russo-ukrainien, alors que la Russie a promis de répondre à toute action armée de l'UE et de l'OTAN. Pour après que la Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine, le 24 février, la France a décidé de renforcer la posture de l'OTAN en Europe de l'Est. C'est ce qu'indique la zone militaire, le site qui couvre les opérations extérieures de la France. Ainsi, 200 militaires du 7e bataillon de chasseurs alpins ont été envoyés en Estonie où est déjà déployé un sous-groupement tactique interarmé à dominante blindée et au titre de la présence avancée renforcée de l'Alliance. En outre, 4 Mirage 2005 seront engagés en avance de phase dans la mission Baltic Air Policing depuis la base estonienne d'Amari. En Pologne, l'armée de l'air et de l'espace envoie désormais quotidiennement depuis la base de Mont-de-Marsan deux patrouilles de Rafale armées de missiles Meteor appartenant à la 30e escadre de chasse pour des missions de police du ciel avec l'appui d'un avion ravitailleur A330 MRT. Phoenix est parfois en lien avec un E-3F AWACS. Mais l'effort le plus significatif des forces françaises concerne la Roumanie, qui est aux premières lignes de la guerre en Ukraine. Comme cela avait été suggéré par le président Macron lors de ses vœux aux armées, la France est la nation cadre d'un bataillon multinational mis en place par l'OTAN selon le même principe que sa présence avancée renforcée dans la région de la Baltique. Dans le cadre de la mission Aigle, l'armée de terre est actuellement en train de déployer sur les rives de la mer Noire un groupement tactique interarmé composé d'éléments fournis par le 126e régiment d'infanterie, du 27e BCA, du 93e régiment d'artillerie de montagne RAM, du 2e régiment étranger de génie et du 4e régiment de chasseurs avec des chars AMX-10RCR. A noter que l'envoi de ces troupes en Roumanie a été l'occasion pour l'escadron de transport franco-allemand basé à Évreux avec des C-130J Hercules de mener sa première mission opérationnelle. Cela étant, la France s'apprête à en faire davantage grâce à son groupe aéronaval formé autour du porte-avions Charles de Gaulle engagé dans la mission Clémence 22 qui se concentre exclusivement sur la Méditerranée. Ainsi, après une escale à Limassol, à Chypre, le Charles de Gaulle a appareillé pour se positionner en mer Ionienne entre l'Italie et la Grèce. À partir de là, son groupe aérien embarque pour amener des missions de police du ciel et de renseignement au-dessus de la mer Noire, où la marine russe pourrait lancer des opérations amphibies sur les côtes ukrainiennes. Il fallait trouver une solution pour freiner l'avancée vertigineuse de la haute technologie germanique et les sionistes revanchards qui auraient chacun perdu au moins un de leurs proches dans l'holocauste concocté par le sinus d'Ashkenaz et qui ont entre les mains le trésor américain l'ont fini par la trouver. La guerre russo-ukrainienne. Voici une autre trahison israélienne contre la Russie. Le dénommé Doré Gold propose du gaz israélien à l'Europe. La guerre en Ukraine illustre l'importance de la diversification des sources de gaz européens, ne serait-ce que pour réduire le rôle d'influence de la Russie sur l'Europe et l'OTAN. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, avait affirmé avant le déclenchement de la guerre les préoccupations sur la dépendance européenne à l'énergie russe. Pour trouver une alternative à l'approvisionnement européen en gaz russe, il existe aussi une réponse israélienne. Le gouvernement Bennett-Lapid a modifié sa politique énergétique et semble adopter certaines préférences américaines concernant des énergies renouvelables. De ce fait, Israël a suspendu pendant un an l'octroi de permis à l'exploration de gaz naturel pour se consacrer sur les énergies renouvelables. Rappelons que le 2 janvier 2020, la Grèce, Chypre et Israël avaient signé à Athènes un accord sur le gazoduc EastMed. L'objectif est de faire des trois pays un maillon important de la chaîne d'approvisionnement énergétique de l'Europe. Long de 1872 km, l'EastMed devrait permettre d'acheminer entre 9 et 11 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an à partir des réserves offshore au large de Chypre et d'Israël, vers la Grèce ainsi que vers l'Italie et l'Europe centrale. Cependant, les États-Unis ne soutiennent plus la construction du projet de gazoduc EastMed et se tournent désormais vers les sources d'énergie renouvelables. Le département d'État américain avait indiqué dans un communiqué publié le 9 janvier 2022 « Nous restons engagés dans une interconnexion physique de la Méditerranée orientale vers l'Europe en matière d'énergie. Nous nous concentrons désormais sur les interconnexions électriques qui peuvent soutenir à la fois le gaz et les sources d'énergie renouvelables. Les États-Unis sont déterminés à approfondir leurs relations régionales et à promouvoir les technologies énergétiques propres. Cependant, malgré la position de l'administration Biden, soulignons que le gaz israélien est toujours utilisé par deux voisins et partenaires arabes, l'Égypte et la Jordanie. Et ce, en dépit des intentions de l'Iran à exporter son gaz vers l'Irak et même à la Jordanie pour pouvoir étendre ainsi son rôle d'influence sur le front est d'Israël. Dans le cadre d'une amélioration des relations bilatérales prévues avec la Turquie, Ankara pourrait aussi en profiter et devenir une plaque tournante de l'exportation du gaz israélien. Ainsi, au lendemain de la guerre en Ukraine, il existe multiples raisons pour lesquelles les travaux sur le gazoduc EastMed doivent reprendre plus vite, ainsi que l'exploration gazière en Méditerranée orientale. De plus, l'augmentation de l'approvisionnement en gaz de l'Occident contribuera également à faire baisser les prix, compromettant ainsi la capacité de la Russie à financer sa machine de guerre. Des bombardiers stratégiques B-52 ont été repérés à moins de 100 km de la frontière ukrainienne. Les États-Unis pratiquent désormais des frappes à moins de 100 km de la frontière avec l'Ukraine. Il y a quelques heures, un groupe de deux bombardiers stratégiques américains B-52, escortés par des chasseurs de l'OTAN, a pratiqué des frappes depuis l'espace aérien roumain s'approchant des frontières de l'Ukraine à une distance de moins de 100 km. Selon les données des ressources publiques ouvertes, la veille, les États-Unis et les pays de l'OTAN ont pratiqué des frappes à l'aide de bombardiers stratégiques B-52. Les avions ont survolé l'espace aérien de l'Allemagne et de la Hongrie et déjà dans l'espace aérien de la Roumanie, les avions ont fait demi-tour et se sont couchés de manière inattendue sur la route opposée. Dans le même temps, l'approche des frontières de l'Ukraine était inférieure à 100 km. De telles actions provocatrices de l'Alliance de l'Atlantique Nord et des États-Unis à proximité des sites de l'opération militaire spéciale russe ont soulevé de nombreuses questions. Dans l'image présentée, vous pouvez voir la trajectoire de vol d'un groupe de deux bombardiers stratégiques américains B-52. Les bombardiers ne sont pas apparus à proximité immédiate des frontières avec l'Ukraine. Cependant, étant donné les armes qui peuvent se trouver à bord des bombardiers B-52, de telles provocations sont plus que dangereuses, surtout compte tenu des relations actuelles entre l'OTAN et la Russie. Et donc, il peut bien s'agir d'une provocation spécialement créée. L'OTAN rejette l'idée d'une zone d'exclusion aérienne en Ukraine. L'un des plans favoris du sionisme était de créer les conditions d'un holocauste chrétien, un projet rendu possible via l'implantation de la tumeur sioniste cancérigène au Moyen-Orient, sans savoir que les cellules cancéreuses peuvent à un moment donné atteindre le cerveau du sionisme lui-même. Craignant que le conflit en Ukraine ne dégénère en affrontement entre l'OTAN et la Russie, l'Alliance Atlantique a rejeté la demande ukrainienne d'instaurer une zone d'exclusion aérienne au-dessus du pays. Les membres de l'OTAN ont rejeté le 4 février la demande de Kiev de créer une zone d'exclusion aérienne en Ukraine pour éviter de se laisser entraîner dans le conflit, a déclaré le secrétaire général de l'Alliance. La question a été évoquée et les alliés sont convenus que nous ne devrions pas avoir d'avions de l'OTAN opérant dans l'espace aérien ukrainien ou des troupes de l'OTAN au sol, car nous pourrions nous retrouver avec une guerre totale en Europe, a expliqué Jens Stoltenberg au terme d'une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance à Bruxelles. Au 9e jour de l'offensive russe en Ukraine, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitry Kuleba, s'est adressé à des homologues durant cette réunion, a précisé Jens Stoltenberg lors d'une conférence de presse. Ne laissez pas Poutine transformer l'Ukraine en Syrie. Nous allons continuer à nous battre, mais nous avons besoin de partenaires pour nous aider par des actions concrètes, résolues et rapides maintenant, a précisé le ministre ukrainien dans un message sur Twitter. Il faut empêcher l'escalade au-delà de l'Ukraine. La seule façon de mettre en œuvre une zone d'exclusion aérienne est d'envoyer des avions de chasse de l'OTAN dans l'espace aérien de l'Ukraine, puis d'abattre des avions russes pour la faire respecter, a de son côté souligné Jens Stoltenberg. Sauf que pour ces avions, il faut des pilote compétent. Nous avons la responsabilité d'empêcher l'escalade de cette guerre au-delà de l'Ukraine parce que cela serait encore plus dangereux, plus dévastateur et causerait encore plus de souffrances humaines, a-t-il déclaré. L'OTAN est une alliance défensive. Nous ne voulons pas être partie prenante au conflit en Ukraine, a insisté Jens Stoltenberg, estimant que les jours à venir seront pires avec plus de morts, plus de destructions parce que la Russie va utiliser des armes plus lourde. La Russie utilise des bombes à fragmentation et nous avons des informations sur l'utilisation d'autres types d'armement en violation du droit international, a-t-il accusé. Précisant que des informations sont collectées dans le cadre de l'enquête ouverte par la Cour pénale international. L'OTAN a renforcé ses défenses à l'Est avec le déploiement pour la première fois de sa force de réaction rapide, l'envoi des milliers de soldats de l'Alliance dans les pays du flanc oriental, la mise en alerte de plus de 130 avions de combat et plus de 200 navires en mer. Il s'agit de la réponse immédiate de l'OTAN et elle sera renforcée si nécessaire, a assuré le secrétaire général de l'Alliance, ajoutant qu'une réunion des ministres de la Défense de l'OTAN a été convoquée le 16 mars pour prendre les décisions qui s'imposeront. Une discussion va également s'engager sur la posture de dissuasion et de défense sur le plus long terme, a également indiqué le secrétaire général de l'Alliance. Le sujet sera à l'ordre du jour du sommet de l'OTAN des 29 et 30 juin à Madrid.